Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Ce soir, le Parlement britannique a-t-il pété les plombs ? Ne cherchez plus le prochain prix Albert Londres. S'il y en a un qu'il mérite, c'est Pierre Breteau. Ce journaliste au quotidien Le Monde, spécialiste en infographie, vient de relever un défi qui dépasse les limites de l'intelligence humaine. Résumé en un schéma unique et compréhensible, les derniers épisodes et les futurs scénarios du Brexit. Car plus le feuilleton avance, plus il se complexifie. Où en sommes-nous ce vendredi 29 mars, date à laquelle le Royaume-Uni était censé avoir quitté définitivement l'Union européenne ? Eh bien, pour la troisième fois, les députés britanniques ont rejeté l'accord de sortie qui leur était soumis. Le gouvernement de Theresa May a jusqu'au 12 avril pour proposer une solution alternative aux Européens, comme par exemple un nouveau délai, sans quoi le pays sortira de l'UE sans accord, un Brexit dur. Mais Theresa May va-t-elle pouvoir rester en poste ? Parmi les scénarios possibles, il y a celui de nouvelles élections qui auraient pour objet de dénouer cette incroyable crise institutionnelle dans laquelle le Royaume-Uni est plongé depuis l'automne dernier. Le modèle parlementaire britannique est pourtant censé incarner un parlementarisme éclairé, un modèle de contre-pouvoir face à l'exécutif. Mais on dirait bien qu'il y a quelque chose de pourri aujourd'hui au royaume d'Elisabeth II. Alors le Parlement britannique a-t-il pété les plombs ? C'est la discussion du soir en compagnie de trois membres de notre club. Laurent Bigorgne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'Institut Montaigne. Coralie Delhomme, bonsoir.
Bonsoir.
Essayiste, vous venez de publier avec David Cayla aux éditions Michalon 10 questions plus une sur l'Union européenne. Et puis Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
Sylvain, on vous retrouve tous les samedis à 12h45 sur France Culture pour la suite dans les idées. Vous dirigez par ailleurs le site AOC Analyse Opinion Critique. Sylvain Bourmeau, ce système parlementaire britannique, je disais, c'est un modèle, c'est le modèle de parlementarisme éclairé. Est-ce que, au regard de ce qui se passe depuis des semaines, vous diriez que c'est un modèle qui est en faillite ou bien qui démontre au contraire une véritable vitalité ?
Il démontre assurément une très grande vitalité et il démontre aussi à quel point il a été mis en crise par l'organisation d'un élément étranger, un référendum. Un référendum a rien à faire dans un régime parlementaire du type britannique. Alors ça brouille tout, ça met le bazar, ça a clivé à l'intérieur des partis politiques et voilà, donc on ne sortira de cette crise soit en réorganisant un référendum, mais plus probablement en organisant un scrutin législatif, à condition que ce scrutin, mais je ne vois pas très bien comment il peut en être autrement, et en dépit du fait que les deux principaux partis politiques britanniques sont divisés sur la question, à condition donc que ce scrutin fasse de l'enjeu du Brexit, l'enjeu principal, et que les candidats principaux s'engagent clairement, ce qui revient au fond à faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire à faire rentrer en quelque sorte la logique référendaire à l'intérieur du système, c'est-à-dire du système législatif britannique. C'est une manière, au fond, de récupérer la logique référendaire au profit du Parlement et des élections législatives. Moi, je pense que c'est la meilleure solution, parce que ça veut dire retrouver une cohérence et une logique à ce système qui a été gravement endommagé par ce référendum.
Est-ce que vous seriez d'accord, Laurent Bigorgne, pour dire, comme Sylvain Bourmeau, que le référendum n'avait rien à faire dans un régime parlementaire et que c'est peut-être, du coup, ce qui explique les blocages actuels ?
Je pense qu'il y a du vrai, et en même temps, le mal est plus profond, si j'ose dire. Au sens où, d'abord, le scrutin législatif post-référendum, il a déjà eu lieu. En juin 2017, je vous rappelle que...
Mais l'enjeu n'était pas clarifié comme tel dans
oui,
la campagne.
Mais je ne suis pas sûr qu'il puisse l'être, en réalité. Et on voit bien, en fait, le cancer, si j'ose dire, de la dispute sur l'appartenance au projet européen a métastasé dans tous les partis, sauf les partis très extrémistes et soudés sur eux-mêmes, mais qui représentent une poignée ou une poussière politique au Parlement, enfin, qui compte. On le voit bien avec les unionistes irlandais. Mais d'une certaine façon, on a déjà cherché la solution, effectivement, d'une clarification par des élections législatives. Ce qui m'a d'ailleurs énormément surpris, c'est que mercredi, dans la discussion des parlementaires sur les scénarios alternatifs, quand le Parlement a repris la main sur l'ordre du jour par rapport à exécutif, c'est la motion sur un nouveau référendum, me semble-t-il, qui a été la plus plébiscitée. Et il n'est pas impossible, d'ailleurs... que cette motion revienne, puisque aujourd'hui même, on a appris que, évidemment, le Parlement ne se rallierait pas à la solution d'un accord. Donc, je ne sais pas, moi, ni conseiller nos amis britanniques, ni dire comment on en sort, mais il y a un mal plus profond que est-ce que le référendum perturbe la vie parlementaire. Il y a un cancer qui a métastasé dans tous les partis, mais d'une certaine façon, comme en France, depuis 2005.
Oui, voilà, c'est vrai qu'en France, on avait fait le constat que ce soit à gauche ou à droite, la question européenne divisée à l'intérieur des formations politiques, c'était peut-être moins attendu s'agissant de la vie politique britannique, qui était très organisée entre d'un côté les travaillistes, de l'autre côté les conservateurs. On voit bien que les cartes sont totalement rebattues avec cette préparation de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Coralie Delhomme, comment est-ce que vous voyez en tout cas ces dernières semaines et cette façon dont le Parlement britannique se comporte à l'égard des différents projets de sortie qui lui sont soumis. On a du mal à savoir si c'est une position, finalement, une réaffirmation de sa position de force, ou bien est-ce que ça n'est pas plutôt une forme de faiblesse, c'est-à-dire de ne pas vouloir assumer ce qui va se passer ensuite.
Oui, alors je trouve au contraire que le Parlement, il y a une vraie vitalité démocratique au sein de ce Parlement où les débats sont quand même très 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 vifs et très nourris. Mais le problème vient de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le clivage sur l'Europe, de la même façon qu'en France, il transcende complètement les clivages traditionnels. Et vous avez dans chaque camp, gauche et droite, des gens de gauche qui veulent sortir parce qu'ils trouvent l'Union européenne trop néolibérale, des gens de droite qui veulent sortir parce qu'ils ne la trouvent pas assez déréglementée. Et à l'intérieur du camp du Remain, c'est la même chose. Donc ça rend tout cela très très cacophonique. Mais la chose existe aussi en France. En 2005, on a bien eu un camp du non avec des gens de droite et des gens de gauche, et un camp du oui avec des gens de droite et des gens de gauche, et un Parlement qui s'est comporté de manière totalement différente. C'est-à-dire que notre Parlement, lui, a annulé en fait le résultat du référendum de 2005 en votant un traité identique, c'est-à-dire le traité de Lisbonne. Donc c'est quand même plutôt réconfortant de voir un Parlement qui débat et qui ne tranche pas d'emblée la question de revenir sur un vote populaire.
Il faut dire qu'il y a une différence fondamentale entre le système français et le système britannique, Sylvain Bourmeau, c'est que en France, le Parlement, a fortiori depuis le quinquennat, procède de l'exécutif. Les législatives, elles suivent la présidentielle. Au Royaume-Uni, c'est l'inverse. C'est l'exécutif, normalement en tout cas, qui procède du législatif.
Ah ben, pas normalement, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que c'est une chose qu'on a peut-être tendance à oublier en France. Les membres du gouvernement, ce sont d'abord et avant tout des parlementaires. Des gens qui sont sur les bancs devant du Parlement et donc qui siègent comme parlementaires tout en étant ministre ou éventuellement lord. Mais donc... Ce sont des gens qui émanent directement du Parlement. C'est le principe même. Donc il y a à la fois une séparation des pouvoirs entre exécutif et législatif, mais il y a une articulation qui est plus complexe, qui repose aussi sur la possibilité pour le Premier ministre de dissoudre ce Parlement, d'organiser des élections anticipées. Mais on observe, quand on compare la France et la Grande-Bretagne, ou la Grande-Bretagne avec d'autres pays, l'Allemagne, etc., on observe un certain nombre de tendances générales. Par exemple, le fait que l'exécutif soit devenu plus important dans les démocraties, je pense qu'on peut l'observer partout. Ou, autre exemple dont on vient de parler, le fait que la question européenne clive à l'intérieur même de la gauche et de la droite, ce sont des choses qu'on observe partout. Mais il y a des spécificités qui tiennent évidemment à la fois au système institutionnel, et également à la culture politique. Je voudrais juste, au fond, raconter. Moi, il se trouve que j'ai presque... Je ne suis pas devenu eurosceptique, mais quand j'ai habité en Grande-Bretagne à la fin des années 80, début des années 90, et que je travaillais sur le journalisme politique britannique et sur le Parlement, donc, puisque les journalistes politiques sont basés au Parlement, que leurs bureaux sont là-bas, ça en dit long sur l'importance stratégique de ce lieu. Ils y sont physiquement, comme tous les gens qui s'occupent de politique. Eh bien, j'ai mieux compris, au fond, ce que c'était que l'euroscepticisme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre en France avec la gêne qu'il y a de la part de certains Britanniques vis-à-vis de l'Europe. Pas tous. C'est quelque chose qui a à voir, indépendamment, je dirais, des politiques publiques qui sont menées par l'Europe ou qui sont préconisées par l'Europe. C'est quelque chose qui a à voir avec la question, tout simplement, de la souveraineté au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue que ce régime politique britannique permet de faire en sorte que la loi soit absolument souveraine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conseil constitutionnel non plus en Grande-Bretagne. Il y a une confiance dans la politique qui fait que ce que le Parlement fait un jour, il peut le défaire le lendemain de façon simple. Et ça, ça change tout le rapport aux politiques. Donc,
Sauf que là, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire, oui, mais, avec le référendum sur le Brexit, le Parlement paraît totalement démuni.
Il n'est pas démuni parce que c'est quand même lui-là qui empêche le Premier ministre de faire ce qu'elle veut. Ce qui est très important à comprendre, c'est que, si vous voulez, le fait de rendre des comptes est au cœur de ce système. Et on a du mal à le comprendre en France, parce qu'on n'est tellement pas dans cette tradition. Et du coup, il y a une défiance à l'égard de la façon de faire de la politique distante, comme c'est le cas en Europe. Cette boîte noire qu'est l'Europe, qu'on ressent de la même façon en France, elle est encore plus insupportable pour un Britannique qu'elle l'est pour un Français.
Je précise juste une petite chose, c'est que c'est pendant toute la campagne référendaire, l'un des arguments qui a été avancé par les partisans du Brexit, c'était la question de la primauté des jurisprudences de la Cour de justice de l'Union. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais en France. Parce que cette primauté, effectivement, rentre en contradiction avec la souveraineté du Parlement britannique.
Laurent Bigorne.
Oui, alors il y a beaucoup de choses qui sont dites. D'abord, j'aimerais marquer un point d'accord avec Sylvain et Coralie, c'est qu'il y a une expérience parlementaire. Et je le vis comme membre du colloque franco-britannique depuis des années, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une expérience parlementaire britannique s'exprime, je trouve toujours nos parlementaires français très en retrait, et pour me dire, sur le fond et sur la forme, beaucoup moins bons que les parlementaires britanniques. Ça ne peut pas leur faire offense ni se moquer d'eux, mais c'est vrai qu'il y a une expérience parlementaire.
Il y a un monde entre
eux. Exactement. Il y a une culture, y compris de la prise de parole et de l'exposition des faits et gestes, et un respect aussi, quelle que soit la dramaturgie scénarisée dans le Parlement britannique à Westminster. Il y a une vraie, dramaturgie, certes, mais un respect de la parole de l'autre.
Vous les trouvez bons, là, actuellement?
My right honorable friend.
Non, mais ils sont bons ontologiquement. C'est-à-dire qu'en ce moment, ils sont dans une situation, mais ça pourrait nous arriver aussi, ça pourrait arriver à n'importe quel pays démocratique, et je suis heureux de vivre en démocratie. Donc, ils sont dans un moment de tension extrême, j'y reviendrai, où le système est sans dessus-dessous, mais techniquement, ce sont des parlementaires qui, en moyenne, sont bien meilleurs que les parlementaires français. Le point de désaccord que j'aimerais marquer avec vous, Coralie, un instant, c'est que vous dites tout à l'heure, au fond, il y a ce respect en Grande-Bretagne, et puis nous, on n'a pas respecté le choix des Français, et on a annulé, évidemment, l'effet du référendum. Oui, enfin, entre-temps, il y a eu une élection présidentielle, durant laquelle le président de la République élu, à la souveraineté populaire, sans doute dans l'élection la plus disputée qui soit, Nicolas Sarkozy en 2007, avait dit
qu'il chercherait... Les gens n'ont pas voté sur la question.
Mais ils ont voté pour Nicolas Sarkozy, voté pour un ensemble. Cette idée que l'élection présidentielle est moins légitime que le référendum finit par me poser problème. Parce qu'à un moment ou un autre, elle ne permet plus à la Constitution d'organiser les pouvoirs de façon à faire que l'État et la société cohabitent, coexistent et avancent dialectiquement. Je suis désolé, l'élection présidentielle, pour moi, constitutionnellement, historiquement, c'est plus important qu'un référendum. Et quand un candidat s'engage et qu'il est élu, c'est son programme qui va prévaloir. Surtout si... Je crois que c'est le sens de nos institutions.
Excusez-moi. À partir du moment où un référendum a tranché la question, en principe, ça ne devrait pas revenir sur la table à l'occasion d'une autre élection, sauf si la décision a déjà été mise en œuvre.
C'est la souveraineté du peuple qui est pas marquée.
Sauf si la décision a déjà été mise en œuvre et qu'on peut en juger des effets. C'est pareil que les gens qui voudraient faire revoter les Britanniques. Le Brexit n'ayant pas encore eu lieu, les citoyens britanniques ne sont pas en mesure encore d'évaluer si c'était un bon ou un mauvais choix. Ce qu'ils ont évaluer, c'est est-ce que c'est encore bon pour nous ou est-ce que c'est devenu mauvais de rester dans l'Union européenne.
Ils ont tranché la question. On ne peut pas être alternativement pour et contre la souveraineté. Moi, je suis totalement pour la souveraineté du peuple.
Moi, je suis totalement pour également.
Et donc, quand une élection présidentielle vient, contredire un référendum, pour moi, en toute logique, c'est l'élection présidentielle qui compte et qui remporte.
Coralie Delhomme, samedi dernier, il y a eu plusieurs centaines de milliers de manifestants à Londres qui réclamaient justement un nouveau vote. Alors, on a parlé de 700 000, 1 million, la deuxième plus grande manifestation.
Et une pétition de 6 millions de personnes.
Et alors j'allais y venir aussi, et une pétition de... Alors je crois que ça, on est 5 millions et demi.
Moi j'ai 6, mais six, on va pas se...
C'est énorme. Comment tenir compte de ce type de demande sans aller jusqu'à remettre en cause le résultat du référendum de 2016? Là, il y a un vrai dilemme quand même qui se pose.
Je ne pense pas qu'une manifestation ou une pétition puisse être jugée sur le même plan. 6 millions de personnes qui ont signé une pétition, c'est énorme. C'est énorme.
Près d'un million de personnes qui manifestent, voilà. Ça n'est pas anecdotique.
Mais ce ne sont pas non plus les 17 millions de personnes qui ont voté pour le Brexit. Donc effectivement, c'est assez spectaculaire de voir à quel point la société britannique est divisée et à quel point le sujet passionne. Mais une pétition ne peut pas remettre en cause le résultat d'un référendum.
Sylvain Bourmeau.
Ben, on voit bien qu'on est dans des conflits de légitimité, de circuits électoraux. En Grande-Bretagne, normalement, les choses sont simples. Contrairement à la France, il n'y a qu'un circuit électoral, des élections législatives. En France, on en a deux. Alors, on les a aujourd'hui articulés étroitement depuis le quinquennat. Mais même avant le quinquennat, le fait que l'élection présidentielle ne se déroule que dans une seule circonscription lui donnait une légitimité telle que, de toute façon, elle produisait un effet sur les législatives. Bon, il y avait ces périodes de cohabitation qui pouvaient exister. C'est plus le cas aujourd'hui. En Grande-Bretagne, normalement, il y a un circuit de légitimité, c'est les élections législatives. Mais il y a aussi des formes de responsabilité qu'on ne connaît pas en France, qui sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, Theresa May a mis dans la balance son poste de Premier ministre. Si elle est cohérente, elle va quitter Downing Street. Alors même qu'elle ne pouvait pas faire pendant quelques mois encore l'objet d'un contest, d'un vote de défiance de la part de son parti. Mais quand même, là encore, ce sont des choses auxquelles on ne prenne pas assez attention en France. Moi, il se trouve que j'ai vécu de l'intérieur de ce système la destitution de Margaret Thatcher. C'était pas rien.
Pour rappeler, destitué par son propre parti.
Oui, par le 1922 Committee, qui est une institution à l'intérieur du Parti conservateur qui a le pouvoir de démettre un Premier ministre en exercice. Vous imaginez le Parti socialiste démettre François Mitterrand en 1987, par exemple, ou... Enfin, c'est juste impossible. Donc, ça en dit long sur l'exercice de cette responsabilité politique. Le pouvoir en Grande-Bretagne appartient aux parlementaires.
Mais on ne comprend pas justement pourquoi le Parti conservateur britannique, aujourd'hui, ne prend pas cette responsabilité. Alors, il désavoue systématiquement ce que fait Theresa May, mais il la maintient quand même.
Techniquement, il n'avait pas la possibilité d'organiser ce vote de défiance avant le mois de décembre prochain, puisqu'il y a eu un vote qu'elle a remporté, parce qu'elle a été challengée, quand même. Et simplement, on ne peut pas multiplier, ce sont les règles du jeu, les challenges toutes les semaines non plus, parce que ça fragiliserait, donc c'est une fois par an. Donc là, elle était protégée normalement pendant un certain nombre de mois. Mais je veux dire, j'insiste là-dessus, parce que ce sont des règles de mise en jeu de la responsabilité politique auxquelles on est vraiment totalement étranger dans notre système, où on estime que quelqu'un, un président, est légitimé pour 5 ans, quoi qu'il arrive, parce que cette élection est puissante. Et bon, non, les Britanniques, encore une fois, font davantage confiance à la démocratie, à leurs représentants, demandent des comptes rendus en permanence. C'est deux fois par semaine, quand même, qu'au Parlement. Et je voudrais juste ajouter une chose sur ce que disait Laurent Bigogne à juste titre, sur la compétence de ces parlementaires. Il y a autre chose, c'est qu'il y a aussi une représentativité beaucoup plus grande. En dépit du bipartisme, il y a une représentativité sociale, culturelle, qui n'a rien à voir avec la... Il y a des ouvriers qui sont parlementaires. Il y a des Noirs qui sont parlementaires. Absolument. Le Parlement britannique, vous regardez la composition du Parlement, il ressemble bien plus, je ne dis pas que c'est parfait, mais il ressemble bien plus à la société britannique que le Parlement français. Mais c'est sans commune mesure.
Laurent Bigorne.
Oui, je voudrais faire une remarque sur ce que vous avez dit, Sylvain, tout à l'heure, sur, au fond, on a du mal à faire coexister ou articuler des éléments institutionnels qui ne voisinent pas bien. Par exemple, un parlementarisme presque intégral et le référendum. Et vous dites ensuite, y a un sujet, c'est qu'on n'imagine pas en France un président destitué. En réalité, on a procédé au même type de mélange. Par exemple, la question, au fond, de la non-présentation par François Hollande d'une candidature à la présidentielle, c'est le résultat quoi ? C'est le résultat de l'introduction d'une primaire au sein du Parti socialiste.
Mécanisme nouveau.
Mécanisme nouveau.
Hélas, abandonné.
Mécanisme nouveau et qui venait, au fond, lui faire prendre conscience qu'il n'arriverait pas à passer sans doute le cap de la primaire s'il présentait sa candidature. Donc on voit bien qu'on est aussi dans une tension en France où la question de la légitimité et de la relégitimation des responsables politiques, et on est en train de le vivre en réalité, se pose et il faut se frayer un chemin sans doute pour inventer les méthodes de démocratie plus directes qui vont permettre, et on a ce débat en ce moment en France, hein, et on vient de l'avoir avec Coralie sur, au fond, qu'est-ce qui est le plus légitime, l'élection présidentielle ou le référendum? Et on commence à avoir ce débat, et on voit bien que ce débat n'est pas tranché dans notre pays. C'est pour ça qu'il faut évidemment être très modeste quand on regarde le cancer du Brexit et sa métastase, parce que en réalité, nous y sommes, nous aussi.
Mais on l'a eu en 69, Laurent Bégrin, permettez-moi d'ajouter ça. Le général de Gaulle a organisé un référendum, vécu comme un plébiscite, il a perdu,
il est parti.
Dans un système où il y a une présidentielle, évidemment, la responsabilité porte d'abord sur la figure du chef de l'État. Dans un système parlementaire comme le système britannique, Coralie Delhomme, c'est un petit peu plus compliqué. Pour autant, quelle part est-ce qu'on peut, est-ce que vous, en tout cas, vous attribueriez de responsabilité à Theresa May aujourd'hui dans ce blocage qu'a... Il y a quand même, même s'il y a une vitalité démocratique, on est aussi face à un blocage. Il faut quand même rappeler que le Royaume-Uni, aujourd'hui, vendredi 29 mars, aurait dû être en dehors de l'Union européenne si le calendrier avait été respecté. Il y a quand même eu du temps qui est passé entre le référendum de 2016, le déclenchement de l'article 50 et puis la date d'aujourd'hui.
Alors, il y a deux choses. Oui, alors, du coup, la nouvelle date, c'est la nouvelle échéance, c'est le 12 avril.
Donc, 12 avril.
Soit une sortie sans accord, soit un prolongement beaucoup plus long avec participation aux élections européennes.
Soit car rien n'est plus impossible désormais au Royaume-Uni,
voilà.
Plus de Brexit.
Soit plus de Brexit.
La révocation du Brexit.
Je pense que quelque part, il y a aussi cette volonté des gens qui ont voté contre le Brexit de faire obstacle, exactement comme dans un certain nombre d'autres pays, la France, les Pays-Bas, la Grèce, le parti de l'Union européenne refuse de tenir compte du résultat des élections. Il y a ça aussi. Alors, comme Theresa May...
je peux vous demander qu'est-ce que c'est que le parti de l'Union européenne, en l'occurrence?
Bien, les gens, les européistes, en fait, les gens qui s'auto-décrètent les défenseurs de l'Europe, qui, en fait, sont les défenseurs de l'Union européenne, c'est-à-dire d'un système supranational très particulier, refusent de tenir compte du résultat des élections. On l'a vu.
Vous avez remarqué, au passage, que l'Union européenne, elle, est d'une neutralité absolue. Elle se contente
non,
calendairement.
Mais justement, c'est pas vrai.
Elle enregistre les dates. Et Barnier l'a rappelé. Barnier a dit on va vers un no deal.
Mais quand on est un européiste comme moi, on est plutôt déçu par le fait que l'Union européenne ne fasse pas tout pour faire en sorte qu'il y ait un deuxième référendum.
Moi qui souhaite
que le Brexit n'ait pas lieu, j'aimerais que l'Union européenne aide davantage en ce sens. J'ai pas le sentiment qu'elle le fasse.
Ce qu'il y a, c'est que l'Union européenne a mis très en avant la question irlandaise et la question du filet de sécurité qu'elle a présenté comme étant quelque chose dont on ne pouvait absolument pas faire l'économie. Et c'est ce que Barnier disait jusqu'à présent. Et du coup, on se demandait, mais alors, en cas de no deal, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir le retour d'une frontière en Irlande? Est-ce que ça va être le retour de la guerre en Irlande? Et Michel Barnier a fait savoir lui-même la semaine dernière que même en cas de Brexit dur, il n'y aurait pas de retour de la frontière irlandaise parce qu'on a les méthodes qui permettent de ne pas revenir à une frontière dure. Donc ça veut dire que l'Union européenne, en mettant cette condition absolue, a fait en sorte que ça se passe mal. Elle s'est comportée de manière... Elle a joué de mauvaise foi, en fait, tout simplement, puisque aujourd'hui, on comprend que si ça se trouve, eh bien, en cas de no deal, il n'y aura pas de frontière. Voilà.
Donc ce n'est pas forcément, en tout cas, uniquement un problème institutionnel, c'est aussi un problème politique interne, et c'est aussi une question de responsabilité partagée.
C'est un problème aussi de rapport de force. Mais Theresa May, elle aussi, a accepté ce deal. A accepté ce deal qui faisait du Royaume-Uni, qui divisait le Royaume-Uni en deux, en fait. Une majeure partie qui allait rester dans l'union douanière et l'Irlande du Nord qui allait se trouver, pour ainsi dire, rester dans le marché unique. Donc c'était difficilement acceptable. Parce que il y avait plus d'unicité juridique, etc. Et effectivement, Theresa May a sans doute fait la faute d'accepter ce deal.
Laurent Bigorre.
Oui. Moi, je trouve que faire porter la faute, la responsabilité, même en partie, des turpitudes britanniques aux Européens, c'est juste hallucinant. Hein. Ils s'y sont mis tout seuls. Qu'est-ce qui gêne le plus Theresa May? C'est ce que vous appelez les européistes, ou c'est Boris Johnson qui mise, d'une certaine manière, qui est en situation de shorter Theresa May pour obtenir son départ? Est-ce que c'est...
Il faut rappeler Boris Johnson, ancien maire de Londres,
lui-même Brexiteur
avéré. Qui change beaucoup d'avis. Hein.
Et qui ne cesse de changer d'avis, et qui a encore changé d'avis, puisqu'il était prêt, à raison du départ promis par Theresa May après le 22 mai, il était prêt, évidemment, à voter finalement pour l'accord qu'il n'avait cessé de combattre. Ou alors, est-ce que c'est les groupes les plus Brexiteurs au sein du Parti conservateur qui se sont mis à voter en faveur de l'accord aujourd'hui parce qu'ils avaient peur finalement d'un no deal final, si enfin d'un no deal, d'une non sortie pardon du UK en cas de prolongement. Donc je pense que d'abord et avant tout,
d'abord il y a une responsabilité partagée, c'est la responsabilité des Britanniques, ont une lourde responsabilité aussi.
Et je crois que cette semaine, moi en européen, pas le mot européiste, mais en européen, je regarde une seule chose. Le phénomène le plus important, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est l'absence de la Grande-Bretagne aux côtés de Mme Merkel, de M. Macron, de M. Juncker pour recevoir le président de la Chine ? Ou est-ce que c'est les turpitudes auxquelles on assiste ? Moi, ce qui me soucie le plus, comme Européen, c'est qu'on le voit bien. D'ores et déjà, le Brexit a des effets sur ce que nous pesons face à un pays concurrent, adversaire, voire, dans certains cas, ennemi comme la Chine. C'est ça, mon sujet.
Sylvain Bourbon ?
Oui, je crois que la responsabilité quand même du Brexit, faut revenir là-dessus. Il y a eu... C'est des raisons d'abord internes au Parti conservateur, l'organisation de ce référendum. Mais au fond, on connaît tout ça. On a eu la même chose. Je suis désolé, mais quand Laurent Fabius prend des positions anti-européennes, il n'est pas crédible un instant, mais il prend des positions anti-européennes. Il encourage à l'intérieur de la gauche la possibilité, à l'intérieur même du Parti socialiste, la possibilité qu'on puisse voter non. C'est une responsabilité politique considérable qu'on paye encore aujourd'hui, que le Parti socialiste paye encore aujourd'hui lourdement. Il le fait pour des raisons de stratégie, de tactique interne à l'intérieur de ce parti pour y prendre le pouvoir. Eh bien, on a eu la même chose avec le Parti conservateur britannique.
Cameron a fait la même chose.
Exactement.
Cameron a joué le Brexit.
A été jusqu'au bout de ce que Laurent Fabius a pu faire. Mais je veux dire que ce sont là, à mon avis, des comportements politiques totalement irresponsables parce qu'on les paye cher comme Européens aujourd'hui.
Oui, mais on ne peut pas non plus renvoyer toujours systématiquement aux autres. Origine du mal, il faut bien après trouver des solutions pour en sortir. Alors pour revenir peut-être sur le questionnement institutionnel avec ce modèle du parlementarisme britannique que vous évoquiez notamment tout à l'heure Sylvain Bourmeau, moi je me demandais est-ce que vous n'idéalisez pas un peu ce modèle par rapport à ce qu'il est véritablement aujourd'hui ? Je voudrais juste vous citer un extrait d'une interview que j'ai trouvé très intéressante cette semaine dans le journal La Croix d'un professeur de sciences politiques à Sciences Po Lyon qui s'appelle Alistair Coyle et qui dit « Depuis la Seconde Guerre mondiale, la souveraineté parlementaire ne veut plus dire grand-chose au Royaume-Uni car il y a le fait majoritaire d'un parti aux commandes qui domine totalement le Parlement » un peu comme dans la Ve République. C'est-à-dire, il dit, en gros, ce que disait hier soir dans du Grand Moudre Vincent Martini, il y a une présidentialisation des régimes parlementaires aujourd'hui dans le monde qui fait que, entre l'idéal et la réalité, il y a quand même
Je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de phénomènes qu'on observe, quels que soient les régimes institutionnels, partout, qui tiennent à la personnalisation de la vie politique, au poids de la télévision, par exemple, des sondages, qui conduisent au fait que l'exécutif pèse de plus en plus lourd. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même regarder constater les différences qui dire que le régime parlementaire britannique c'est comme la Ve République, non, je suis désolé, ça n'a strictement
un peu comme
rien à voir entre les députés Godillot que l'on connaît, enfin regardez la majorité parlementaire aujourd'hui en France, La République En Marche. Alors vous allez me dire, elle est atypique parce que les gens sont inexpérimentés, etc. Mais c'est les pires des godillots qui soient, mais c'est pas les premiers. Il y en a eu beaucoup à droite comme à gauche qui sont le doigt sur la couture du pantalon. Et regardez ce que c'est qu'un backbencher. Regardez la liberté, l'autonomie politique, le courage politique de certains de dire leurs désaccords, de les formuler, cette vitalité démocratique. Alors évidemment, il y a un mode de scrutin, c'est le prix à payer de ce système, un mode de scrutin qui engendre du bipartisme et qui laisse de côté des sensibilités politiques. On peut, par exemple, si on est vraiment militant écologiste, dire c'est terrible parce que ça nous lamine, etc. Ça, je l'entends. Mais en revanche, dire que finalement, ça marche exactement de la même façon en France, en Allemagne, en Angleterre. Non, c'est pas vrai du tout. C'est une longue histoire de la prise d'exécutif. Il faut relire le merveilleux livre de Nicolas Rousselier sur le sujet pour voir comment, au fond, depuis la Première Guerre mondiale, c'est une prise de pouvoir de l'exécutif partout. Mais néanmoins, il y a des formes le simple fait que le Premier ministre, c'est-à-dire le chef politique de l'exécutif se retrouve face à face deux fois par semaine avec le chef de l'opposition, mais c'est rien que pour ça, C'est formidable. C'est-à-dire qu'en France, vous vous rendez compte, là, on a vu le président de la République face à des intellectuels l'autre jour, mais ce genre de moment est extraordinairement rare. Il n'y a que, éventuellement, quelques éditorialistes politiques, de temps en temps, qui peuvent lui poser des questions. On ne voit jamais, sur les écrans de télévision, le président de la République être interpellé par des opposants. En Grande-Bretagne, c'est deux fois par semaine.
Et puisque vous évoquez ce débat avec les intellectuels, je précise que Laurent Bigorne faisait partie de ces 65 intellectuels présents à l'Élysée dans ce débat retransmis sur notre chaîne France Culture. Est-ce que vous diriez, Coralie Delhomme et Laurent Bigorne, qu'il y a peut-être des leçons alors et politiques et institutionnelles à tirer en France, mais aussi sans doute d'ailleurs dans l'Union européenne sur son fonctionnement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Royaume-Uni, Coralie Delhomme?
Dans le cadre de la France, il est évident que si, par exemple, on est partisan d'une sortie, on peut vraiment s'interroger sur le bien fondé d'invoquer un article 50 qui prévoit ensuite 2 ans de négociations avec la possibilité que ça s'enlise, quoi. Les Britanniques ont vraiment joué le jeu, c'est-à-dire que ils auraient pu, peut-être d'abord, ils avaient négocié beaucoup de clauses d'exception, mais ils auraient pu choisir de désobéir à tout, etc., etc. Et ils ont fait le choix assez clair de sortir. C'est plutôt honnête en fait.
Et sur les leçons pour l'Union européenne, est-ce que vous avez le sentiment ou est-ce que vous faites le constat que depuis 2 ans, 3 ans, les règles ont évolué pour que ce qui s'est passé avec le Royaume-Uni ne se reproduise plus, c'est-à-dire faire en sorte que des pays n'aient plus envie de quitter l'Union européenne?
Non, absolument pas. Absolument pas. Non, l'Union européenne. En plus, on dit beaucoup que les Européens présentent un front uni contre, enfin, dans la négociation avec le Royaume-Uni, mais c'est en train d'être un peu moins vrai maintenant parce que la France et l'Allemagne, par exemple, enfin, il y a un camp des faucons et un camp des colons, mais la France est sur une ligne dure, c'est-à-dire plutôt à plaider pour un Brexit dur le 12 avril, et les Allemands commencent à se poser la question pour mille et une raisons, parce que la Grande-Bretagne est un gros acheteur des exportateurs pour les exportations allemandes, parce que l'Allemagne a failli entrer en récession, parce que les industriels allemands font pression sur Angela Merkel, etc. Donc il est possible que plus ça va durer dans le temps, plus le front uni va se lézarder, voilà, la France faisant partie du camp des durs.
Laurent Bigorgne.
Oui, moi j'y crois assez peu, à vrai dire, pour une raison simple, c'est qu'à mon avis, il y a eu entre Tusk, la France et l'Allemagne une répartition des rôles, y compris à la demande de Theresa May elle-même. En réalité, la position un peu dure qui a été adoptée...
C'est comme dans les films, le bon flic et le mauvais flic.
Mais bien sûr. Tout simplement parce que la position un peu dure qui a été adoptée par la France, qui est d'ailleurs cohérente avec ce que la France dit depuis le début, elle n'est pas la seule à le dire, elle a rangé Theresa May, qui d'ailleurs n'a pas tapé sur la France quand on a tenu une position difficile. Elle a voulu motiver et mobiliser les parlementaires autour de l'idée que maintenant, il était temps, évidemment, d'être fidèle au délai qu'on s'était donné à travers le fait d'avoir actionné l'article 50. Mais bon, on peut avoir une discussion à l'infini. Quant à dire que la France est du côté des faucons, oui, il y a une persistance rétinienne de l'image d'un Barnier qui est négociateur. Il me semble qu'au final, il l'a fait de façon très équilibrée. Et vous aurez du mal aujourd'hui à trouver, pour des raisons évidentes, c'est que tout le monde sent bien l'embarras dans lequel on se trouve par rapport au Brexit depuis 2 ans et avec d'autres questions à traiter, parce que l'agenda européen, il est plein d'autres questions. Et ce que je crois pouvoir dire, c'est qu'il y a un sentiment d'immense lassitude dans toutes les chancelleries. Il n'y a pas une chancellerie qui se dit aujourd'hui « chouette ». Le Brexit continue et c'est bon pour mes affaires. Tout le monde en a ras-le-bol. Et je pense qu'il faut aussi savoir à un moment arriver au terme de cette aventure que les Britanniques ont voulu ouvrir. Moi, je ne le fais pas de gaieté de cœur. Je suis exactement sur la même ligne que Sylvain. Je préfère l'Union européenne avec les Britanniques, mais ça n'a que trop duré et ça fragilise l'ensemble. De ce point de vue-là, je suis assez
d'accord, ça a trop duré. Il faut maintenant que ça cesse.
De votre côté. Maintenant, sur les leçons en tirer, moi, j'en vois deux essentiellement. La première, c'est que sortir de l'Union européenne, c'est très difficile. C'est très compliqué, c'est très déstabilisateur. Et puis, la deuxième chose, c'est que, c'est une fois qu'on a dit ça, il faut extraordinairement remettre l'Union européenne. Et ça, c'est la responsabilité d'un Macron, d'une Merkel et de tous les autres. Parce que c'est pas un truc franco-allemand, l'Union européenne. Ça doit être quelque chose de fait à 27. Il faut que l'Union européenne fasse la preuve de son utilité, si elle veut pouvoir se dessiner un avenir. Alors vous allez me dire, c'est une incantation, c'est un vœu pieux, il y a des élections qui viennent. Je pense qu'elles vont être très suivies en France. Elles vont être très suivies ailleurs en Europe, et il faut que ce soit un moment beaucoup plus démocratique, et surtout que ça ait des conséquences beaucoup plus démocratiques.
Je voudrais, pour terminer, revenir au Royaume-Uni avec un moment de la vie politique britannique qui s'est déroulé cette semaine, qui m'a semblé assez intéressant. Je voulais savoir ce que vous en pensez les uns et les autres. Ça a été le vote de mercredi autour de 8 options qui étaient soumises au Parlement. Enfin, c'est le Parlement dont on dit qu'il a pris le pouvoir, justement, par rapport à l'exécutif, en essayant de tester un certain nombre d'options qui pouvaient être qui pouvaient organiser la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors, il y en avait une quinzaine au départ. Le speaker, personnage assez flamboyant qui préside la Chambre des communes, qui s'appelle John Bercow, en a sélectionné 8. Et à chaque fois, pour les 8, c'est le non qui l'a emporté. Il y a eu d'ailleurs la une du Guardian en disant « bah voilà, ça y est, le Parlement britannique s'est enfin prononcé ». Et il y a 8 fois le nom qui apparaît, c'est de manière assez ironique. Mais en tout cas, est-ce que vous y voyez quelque chose de potentiellement intéressant, c'est-à-dire que de soumettre certains textes, certaines lois à un test, au test du vote des parlementaires avant de le soumettre à un véritable vote qui aurait valeur législative, disons Sylvain Bourmeau. Est-ce que ça fait partie, ça aussi, des choses intéressantes du parlementarisme britannique?
Oui, je pense que c'est fait partie des procédures un peu originales. En l'occurrence, ça a été rendu possible parce que un bon connaisseur du droit parlementaire britannique a découvert la possibilité pour le Parlement d'inscrire à l'agenda ce type de dispositif et de reprendre la main en quelque sorte par rapport à l'exécutif. C'est qu'il y a des ressources politiques assez considérables dans cette tradition-là. Donc, effectivement, par ailleurs, le président de la Chambre des communes, le speaker, a un rôle extraordinairement important. Enfin, c'est pas...
Vous le trouvez très différent de Richard Ferrand ?
Oui, sans commune mesure.
Le speaker ou le rôle du speaker ?
Les deux, si vous voulez.
Les deux, en fait. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et encore une fois, il y a une qualité des débats qui est proprement incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, on s'ennuie pas quand on, et pas parce qu'il y a uniquement du spectacle, parce que on entend des eyes have it, ou des choses comme ça. C'est évidemment, il y a des rituels, bon, mais il y a une qualité de la politique qu'on a eu tendance à perdre ici ou là.
Faire tester des textes, des lois, en les soumettant à un vote qui n'a pas valeur législative, pour voir quel est celui qui emportera le plus d'adhésion, ça permettrait peut-être de renforcer aussi la loi chez nous en France. On voit bien que celles-ci peuvent être fragilisées parfois.
Déjà, il y aurait quelque chose d'assez formidable, c'est de voter un peu moins de lois. Ça serait au final pas mal d'en regarder davantage
ça pourrait avoir
l'effectivité et l'exécution. Moi, tout ce qui peut renforcer le travail parlementaire, je suis pour, y compris et surtout en lien avec les citoyens. J'aime beaucoup la formule des conférences de citoyens, cher Agnès Bondiot. On a un Parlement qui continue de travailler en dépit du bon sens. Il n'a pas les moyens de travailler, un calendrier complètement ahurissant. Et donc, il y a, je crois, même toute une émission à conduire sur cette question du travail et de la qualité du travail parlementaire en démocratie.
Eh bien voilà, je le note pour un prochain numéro. Et pour vous, Coralie Delhomme, et ce sera la conclusion.
Effectivement, je pense que ce serait bien que les questions européennes viennent véritablement devant le Parlement en France, parce que finalement elles sont très peu débattues. C'est l'exécutif qui conduit la politique européenne, et il faudrait que ce soit davantage soumis au débat des parlementaires. Par exemple, je cite un seul exemple, le traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé avec l'Allemagne n'est toujours pas arrivé devant les parlementaires français.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois, Coralie Delhomme, Laurent Bigorgne et Sylvain Bourmeau, d'avoir participé à cette discussion que vous pourrez réécouter sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grand Moudre, page depuis laquelle vous pouvez également télécharger l'émission et nous écrire. Merci à l'équipe du Grain, Amélie Perrault, Antoine Tricot, Fanny Richer, Virginie Leduo, Cyril Marchand, émission réalisée par Peyre et Legras, avec à la prise de son Pierrick Charles, Nicolas de Passegraff et Romain Lenoir. Dans 3 minutes, ce sera la dispute avec vous, Arnaud Laporte, pour une émission spéciale ce soir.
Oui, bien sûr, consacrée à Agnès Varda, avec des critiques habituelles et des invités venus spécialement évoquer la cinéaste dont on a appris la disparition ce matin. Demain matin, midi, politique, Hervé Gardette.
On va parler du quinquennat Pompidou, puisque mardi prochain, ce sera l'anniversaire de sa disparition, 45e anniversaire. Une certaine idée du bonheur, nous serons en compagnie de l'historienne Sabrina Tricot.
Et la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Ce sera à propos des militants pour la science de l'histoire, de l'Union rationaliste en particulier.
Rendez-vous demain et rendez-vous dans 3 minutes pour une dispute consacrée à Agnès Varda. Tout de suite, vous écoutez France Culture, il est 19h, les titres de l'actualité avec Mathieu Laurent.